juste, tu viens nous présenter ton deuxième long métrage, Acide. Encore en 2018, je m'en souviens, c'était une des premières interviews qu'on avait fait sur ton court métrage, nous, pour la radio en 2018, Acide. Donc, 5 ans plus tard, tu reviens avec ce long métrage. Est-ce que tu avais déjà l'idée de développer un long métrage autour de cette thématique il y a 5 ans déjà?
Alors, je ne sais pas trop comment répondre déjà. Bonjour Solène. Je ne sais pas comment te répondre parce que tu as vu les choses évoluer et tu as eu un peu un regard sur ces événements qui étaient assez fous, puisque moi je suis rentré dans cette résidence de films de genre un peu par hasard, puisqu'elle a été proposée à un Tourangeau, puisqu'elle était en région Centre-Val de Loire. Et à partir de là, je n'ai pas vraiment maîtrisé ce qui allait se passer. Sous-entendu, le court-métrage a très bien marché et il a créé, je crois, des envies dans une industrie du cinéma qui essayait de se renouveler, qui essayait d'hybrider des formes. Enfin, et j'arrivais avec un bon profil puisque j'avais déjà fait, entre guillemets, du court-métrage d'auteur. Et puis, Acide avait une forme plus, entre guillemets, spectaculaire ou avec des outils de genre. Et à partir de là, j'ai senti que ne pas bondir sur une proposition d'étendre le court au long, c'était un peu refuser un passage au long-métrage qui est compliqué pour un jeune réalisateur ou un réalisateur qui tente de pouvoir vivre du cinéma. Et à partir de là, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, on m'a proposé La Nuée, et je n'ai pas pu refuser ce projet, ni même l'envie de passer au long métrage avec un scénario qui n'était pas écrit par moi ou un ami à moi. Et puis surtout, moi, ça m'a permis d'avoir du temps de réflexion. Et je dirais, malheureusement, on a tous été traversés par des grandes catastrophes, des grandes crises qui m'ont permis en fait, de prendre de la distance avec ce court métrage, de garder que le concept qui était un peu à la base de cette idée et d'en faire une histoire qui était pour moi une histoire d'aujourd'hui. Donc quelque part, j'ai eu la chance de faire coup sur coup, parce que c'est compliqué d'enchaîner les films, deux films en n'étant pas forcément au départ maître de mon destin, puisque j'avais jamais imaginé me faire peur avec un court-métrage et de développer ces angoisses quelques années plus tard.
Est-ce que ça signifie que quand tu préparais La Nuée ou tournais La Nuée, il y avait déjà Acide quelque part en long métrage en toi ?
Ouais, c'était déjà en développement. En fait, j'ai commencé, c'est-à-dire que mes producteurs, je les ai rencontrés avant La Nuée. Donc j'ai commencé à tenter de développer cette histoire. J'avais d'ailleurs énormément de mal. J'ai appelé Yacine Badet, un scénariste formidable, qui avait cette palette à la fois dans le genre et pas que, puisqu'il développe une série sur la Troisième République, sur des super-héros. Enfin, il maniait des formes complètement différentes. Et à partir de là, on a réfléchi ensemble. Et puis, il y a eu La Nuée et j'ai demandé une sorte de bond de sortie ou un temps long à mes producteurs pour faire ce premier long métrage qui me paraissait être un formidable exercice de style, un moyen d'expérimenter des choses et puis surtout de prendre en volume de jeu. Parce que finalement, quand vous êtes réalisateur ou réalisatrice, vous ne tournez pas beaucoup. Et ces expériences, elles sont très, très importantes. Donc là, j'avais l'occasion de me tester sur un film dans lequel j'avais une énergie pleine, puisque je n'avais pas développé le scénario et j'arrivais presque à 100 à l'heure sur une histoire qui était déjà très, très bien menée et déjà hyper aboutie. Donc pour moi, c'était un formidable temps de travail, d'expérience et de réflexion. Donc on l'a écrit en parallèle, avec des temps forts. J'écrivais énormément. Yacine reprenait et on avait une espèce de discours comme ça ou de regard sur l'œuvre qui était en train de se mettre en place de façon assez sereine, puisque moi j'avais toujours un film qui était en activité, donc c'était tout ça était confortablement installé pour que je me noie pas dans un concept, que je tente pas de développer un court métrage en long. Enfin, on a vraiment eu le temps de vivre entre ces promesses d'un court et l'idée d'un long.
Il y a une force, une impulsion depuis tes débuts, puisqu'en fait, c'est une double collaboration solide, déjà celle que tu viens de dire, avec Yacine Badet à l'écriture, mm-hmm. et le directeur de la photo,
Pierre
Dejean. Mm-hmm. Et donc, moi, je voulais te demander, en fait, le fait de te lancer dans le cinéma fantastique, en fait, un drame fantastique, est-ce que c'est pas une grande possibilité de liberté de création tout en abordant un sujet du coup hyper réaliste finalement. Donc finalement, tu es sur les deux tableaux, on est dans le fantastique et quand on vit ton film, avec tous ces effets qui sont magnifiques à la photo et il y a la musique de Rob aussi et tout, mais il y a une teneur qui est dans le plausible qui fout encore plus les ch'touilles finalement, que du coup ça crée vraiment ce frisson.
Écoute, alors les libertés de création par rapport au genre ou au genré, parce que j'ai du mal avec l'appellation film de genre, enfin je trouve que ça peut presque paraître péjoratif dans un pays où on aime donner des cartes pour bien comprendre ce qu'on voit. Moi, j'ai l'impression qu'on appelle cinéma partout dans le monde ce qu'on appelle cinéma de genre en France. Donc, par rapport à ça, je ne sais pas trop comment répondre. Mais ce que je sais, c'est que j'ai grandi, et j'en parle toujours parce que c'est vraiment un truc fondamental pour moi, j'ai grandi dans une famille touchée par le polyhandicap. Et finalement,
il y avait ton frère que tu avais mis.
Exactement. Sur Gilda, ça a quelque chose à nous dire. À travers ce film, en fait, j'ai aussi dévoilé une famille étrange ou hors norme, je ne sais pas comment dire, mais qui a été touchée par quelque chose de complexe, à la fois de très sensoriel, de très humain, peut-être de très étrange pour celles et ceux qui pouvaient regarder le handicap de mon frère, être même impressionnés par son handicap. Et je crois que j'ai grandi dans une famille hors norme ou un peu surréaliste, je ne sais pas comment dire, mais je crois que mon cinéma a été teinté, ou mes envies de cinéma ont été teintées de cette relation assez étrange que j'avais avec mon frère, qui pour résumer un peu le handicap de mon frère, était handicapé à 99% selon la sécurité sociale. Donc je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans ce 1%. Et je crois que ce mystère, il a quelque part créé en moi une envie de mélanger des cinémas à travers un cinéma de l'intime et en même temps d'aimer le spectaculaire, puisque notre famille était spectaculaire, mon frère était spectaculaire, donc j'ai grandi dans une espèce de spectacularité ou forme de spectaculaire un peu étrange, à la fois très intime et très complexe. Et à partir de là, c'est un concours de circonstances, parce que finalement j'arrive avec ce court-métrage en ayant un discours d'auteur, puisque j'avais présenté des films intimes, et en même temps avec des velléités de films de genre, puisque j'avais en moi, à la fois comme cinéphile, des références, et dans le discours, une approche peut-être un tout petit peu nourri d'une expérience qui n'était pas simplement une façon presque gratuite d'employer le genre pour raconter tout et n'importe quoi. En fait, j'arrivais avec du fond et de la forme, et j'arrivais à manier ça pour présenter un projet peut-être solide sur les deux tableaux.
Par rapport à ton court-métrage qui se concentrait principalement et uniquement d'ailleurs sur la fuite et la protection de la famille de ces deux parents là qui voulaient sauver leur petit garçon de ces pluies acides, là ton film il commence directement par une scène au téléphone portable d'une agression d'une altercation, en tout cas entre on devine entre deux ouvriers en tout cas qui en viennent aux mains, notamment Guillaume Canet, enfin une violence sociale en tout cas. Donc ton film, comme tu disais tout à l'heure, s'inscrit dans cette violence contemporaine après les dérèglements climatiques, ce qu'il n'y avait pas, en tout cas, ce discours-là n'était pas présent dans ton court-métrage. Est-ce que c'est toi qui l'as insufflé là, ou est-ce que c'est ton co-scénariste? Comment vous avez travaillé autour de ces notions-là qui ont, du coup, ton film acide est aussi bien, comme tu disais, un film réaliste et fantastique, mais aussi un film profondément contemporain parce qu'il décrit une violence sociale?
Bah, je ne sais pas comment répondre. La genèse des idées, elles viennent de nous, elles viennent de moi, elles viennent de lui. Je ne pourrais pas dire historiquement ou précisément comment c'est venu. Moi, je sais que j'ai toujours évoqué Acide comme étant un mélange de plusieurs films. La Nuée, je présentais toujours en disant « ces petits paysans qui rencontrent la mouche ». Voilà. Donc tout de suite, ça crée un retour assez étrange sur la forme que ça pouvait prendre. Acide, j'ai toujours dit, j'ai envie de mélanger du Stéphane Brisé avec du LM Klimov, en passant par Le Retour ou Faute d'amour de Diaghilev. Enfin, j'avais différentes références comme ça que j'avais envie de mettre en place, parce que je trouvais qu'elles représentaient assez bien l'énergie du moment en tant que, comment dirais-je, quelqu'un qui essaye de raconter une histoire. Et puis, moi, il y a un film qui m'a terrorisé, qui n'est pas un film de genre, et que je cite souvent parce que c'est presque le déclic de cette histoire. C'est Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Et là, on n'est pas dans une dystopie, on n'est pas dans un film d'horreur. Enfin, on est dans notre réalité, sauf qu'elle est, elle est horrible à voir. Et à partir de là, je voulais surtout pas oublier quels seraient mes personnages et ou d'après quoi je devais les tirer. Ils venaient d'une réalité. Ce qui était important pour moi, c'était de présenter une sorte d'ultra-réalisme à l'image de La Nuée, où j'ai tenté de coller au basque d'une jeune agricultrice qui tentait de tenir ses fins de mois et sa production. Là, je devais être au chevet d'un pays malade avec des parents malades. Et cette maladie ou ces maladies, elles viennent du dérèglement climatique et des crises sociales qu'on se prend en pleine figure, et des colères qui sont là aujourd'hui et qui explosent littéralement à notre visage. Donc, je ne pouvais pas, moi, être à distance de cette colère et parler de multiples colères sans évoquer celle-ci. Et puis, pour moi, il y avait un moyen, et ça, c'était aussi un moyen très efficace, de faire rentrer le spectateur je dirais, face à des images qu'il connaît très bien, face à un langage qu'il connaît très bien, puisque c'est le langage de notre quotidien, et il n'y a qu'à regarder les chaînes d'info en continu. Enfin, on a ces images-là tous les jours. Donc, pour moi, il y avait un effet miroir qui était à la fois le moyen d'éviter, peut-être, de le nourrir sur des attentes que pouvait promettre le film. C'est-à-dire que ce n'est pas un film fun, c'est un film noir, très noir. C'est un film qui ne renonce pas, mais c'est un film qui ne devait pas faire plaisir aux spectateurs sur un sujet aussi sérieux que celui-ci. Donc, je voulais prendre au sérieux le spectacle à travers une histoire qui démarrait sur un effet miroir. Et le dernier point, et je pense que pour moi c'était le plus important, c'était aussi de lancer Guillaume dans une espèce d'introduction à 100 à l'heure où il n'y aurait pas eu, j'espère, de questions sur son statut à lui dans un film pareil. Enfin voilà, on devait démarrer dans une colère et elle était collective, elle n'était pas juste celle d'un personnage.
Pour nourrir ce que tu viens de dire ou pour rebondir là-dessus, il se trouve que une grande partie du film développe quelque chose qui évidemment tu n'avais pas eu la place de développer dans ton court-métrage, qui est l'idée de déplacement de population. Et évidemment, quand on parle de déplacement de population, il y a beaucoup d'images qui nous viennent à l'esprit, et c'est pas que des faits historiques, ce sont aussi des images. Les images de l'Exode, les images qui nous arrivent, tu as parlé des chaînes d'information continue, de manière absolument quotidienne, quant à ces déplacements de population liés à des crises, qu'elles soient climatique, social, politique, etc. Et du coup, j'ai tendance à me dire, on ne peut pas faire ce cinéma-là de manière impunie et sans penser à d'autres images. Comment ces images-là ont infusé toi et quelle place tu as eu face à ces images-là pour ensuite en faire quelque chose dans ton film?
Écoute, comment te répondre? Alors déjà, il y a plusieurs choses, parce que tu parlais de la crise ou des crises migratoires. Il y a la guerre en Ukraine qui forcément a amené aussi son lot d'images horrible. Il y a aussi le Covid. Enfin, disons que j'ai l'impression d'avoir cherché à vouloir expliquer cette catastrophe. Et puis finalement, tu vois, j'ai regardé ces trois années et je me suis dit, bah, le Covid, enfin, on n'arrive toujours pas à expliquer comment ni pourquoi. La guerre, on l'explique, on l'a vu venir, finalement, elle explose, mais elle est là à nos portes et on se dit, c'est pas si loin. Malheureusement, la crise migratoire continue, enfin, de n'avoir aucune solution et ni aucune... comment dirais-je, aucun élan de solidarité de qui que ce soit. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, il fallait absolument, une fois de plus, ramener le spectateur à des images qu'il connaît très bien et à des sensations qui, aujourd'hui, m'amènent à me dire qu'on n'est plus intouchable. Et je crois que c'était le plus important pour moi, c'était de faire vivre au spectateur une expérience sensorielle et émotionnelle très forte et en même temps, comment dirais-je, de ne pas lui mentir, c'est-à-dire qu'il est lui-même touché par ces images et par ces dangers, et je ne vois pas pourquoi mon spectateur à moi ne l'aurait pas été à travers ces images. Donc le but a vraiment été de, je dirais, de façon, j'espère, adroite et sincère, d'amener ces images-là et de, je dirais, conduire ce récit et cette fuite à travers... les grands traumas de notre société d'aujourd'hui.
Je voulais qu'on aborde les effets visuels aussi du film. Comment tu as travaillé avec Thomas Duval, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de son travail et comment tu as collaboré avec lui sur le film?
Écoute, le travail de Thomas, et j'ai envie de te dire, il est très simple et il est très compliqué. Je regardais encore les nuages là tout à l'heure en arrivant en me disant, tiens, celui-là il est pas mal, celui-là on n'y aurait pas cru, celui-là il était un peu too much.
On sort de la salle, on flippe de voir une goutte carrière.
Ah ouais, je regardais dans le train, là, j'avais l'horizon.
Moi j'étais à vélo, merci.
Ils étaient très très beaux ces nuages, voilà. Donc il y a quoi? Alors il y a différentes relations. Thomas, il est donc superviseur VFX, son travail c'est d'accompagner l'imaginaire du film. On a un budget qui est ambitieux, mais qui est limité, notamment sur ces effets qui coûtent très très cher. Et en fait, Thomas, très vite, il m'a laissé une grande liberté. Il savait que j'avais envie d'une caméra embarquée, il savait que je voulais un mouvement permanent, il savait qu'il ne devait pas avoir un langage, qui serait contraignant par rapport à la façon dont je voulais procéder. Enfin, moi, c'était clair et net que ces effets-là, visuels, je ne voulais pas les voir, donc je ne voulais pas les mettre en avant et je ne voulais pas les mettre en scène. Sauf qu'ils sont quand même en scène, ils sont quand même là et on les voit quand même. Donc tout le travail de Thomas, ça a été de me dire à chaque fois, t'es libre de faire ce que tu veux. Vas-y, on verra au montage. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être une petite arnaque, on verra qu'on peut rien faire au montage, ce qui est souvent le cas. Là, non, en fait, son travail, principalement, ça a été d'étendre les textures de mon chef décorateur et de son équipe pour réussir à homogénéiser une image et en même temps, de réfléchir sur les ciels, de réfléchir sur cette nuage, de cette menace, de ces menaces, enfin de réussir à être, je dirais, à la fois très visible et invisible, enfin en tout cas de trouver vraiment le bon équilibre pour ne pas mettre en avant un travail qui n'était pas celui d'une équipe qui voulait réaliser les cascades, les effets spéciaux sur plateau. Tout a été fait sur plateau. Le travail de Thomas a été d'étendre, sauf que c'est très compliqué parce que c'est à travers des fumées, c'est à travers des mouvements. Donc finalement, ça paraît simple, mais ça lui demandait un travail de précision qui était celui d'une équipe, comment dirais-je, à même de vouloir disparaître dans un univers où on avait clairement besoin de l'atout du numérique, mais surtout pas de ses plus-values.
J'aimerais qu'on parle montage, parce que tu as beaucoup, au début de ton interview, tu parlais de l'effet que tu voulais créer, ou que vous voulez créer, ton équipe et toi, sur le spectateur et les spectatrices. J'aimerais savoir comment tu as travaillé le montage. Justement, le film est relativement resserré autour de scènes qui ne vont pas chercher des intrigues parallèles ou des éléments parallèles. Tout est resserré autour d'une certaine efficacité de récit et d'une certaine efficacité de discours. Et je crois savoir, mais alors peut-être que je me plante complètement, qu'il y a eu différentes strates dans ce montage et différentes présentations de montage. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu l'as travaillé, ce montage ?
Alors, déjà, moi, il y a un truc important dans le film, c'est qu'on n'a pas voulu s'étendre sur le pourquoi du comment, parce que, une fois de plus, je crois que le Covid nous a expliqué qu'il fallait être un peu modeste vis-à-vis des explications. Puis parce que moi, ça m'embête dans les films d'avoir quelqu'un qui m'explique, et puis ça me rassure. Donc, quelque part, mon travail avec Pierre Deschamps, mon monteur et son équipe, ça a été de coller à une forme de discours très réel, d'avoir les bonnes informations. On parle d'un effet de surpollution. Donc tout d'un coup, on a une conséquence dite naturelle de catastrophes qui sont créées par nous, tout simplement. Donc à partir de là, moi, je voulais m'éloigner de devoir avoir un discours, je dirais, qui prenne la main du spectateur. Et à partir de là, tu cherches surtout un rythme, parce que la structure, on n'y a pas touché. De toute façon, c'est un road trip, donc il y a un début, la catastrophe arrive. Enfin, tu ne peux pas réinventer un montage parce que bon, tu as quand même une ligne assez claire et assez tracée. Il faut faire avancer les personnages. Et à partir de là, tu essayes de manier le rythme et ton processus de fabrication ou de montage qui est finalement à trous, puisque tu n'as pas les effets, puisque tu n'as pas la musique, puisque tu n'as pas le montage. Donc, tu es là dans une espèce de logique d'anticipation et tu t'épuises, entre guillemets, à créer des rythmes sans toutes les images. Donc il y a des fois, tu te dis, il y en a trop, donc tu coupes, et puis tu t'aperçois que tu en as trop coupé. Et la preuve, enfin, à un moment donné, on a présenté le film, notamment à Guillaume, on avait coupé énormément d'informations sur son personnage, et c'était pas bon. Donc voilà, tu reviens en arrière. Le montage, en fait, c'est comme l'écriture, c'est-à-dire que le principe même du montage, c'est de faire et de te tromper, parce que tu as besoin de savoir où tu vas, et il n'y a qu'en se trompant qu'on comprend le bon chemin. Donc tu prends le chemin, en général il était tracé par l'histoire, et puis tu équilibres en fonction d'un temps, d'une ambiance, d'une sensation, d'un sentiment, enfin d'une certitude, et parfois cette certitude tu la perds au cours du montage. Donc tu restes à l'affût de tes sensations, mais tu dois faire confiance à un monteur qui a, comment dirais-je, cette particularité de comprendre plus que toi ou de voir plus que toi. Je ne sais pas comment dire, mais il est à distance de tes images, donc quelque part, il n'a pas l'affect que tu peux avoir sur la fabrication du film, sur les images que tu aimes ou que tu n'aimes pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des images que tu n'aimes pas, que lui va aimer et qui va te faire aimer. Donc il y a un vrai échange. Moi, Pierre, il avait fait La Nuée, j'ai vu ce qu'il pouvait faire de mes images, donc j'ai eu le même désir avec lui de laisser un monteur prendre possession des images et de m'étonner aussi, moi, en tant que spectateur, parce que le but pour moi quand tu fais un film, c'est d'être le premier spectateur d'une histoire auquel tu vas croire. Donc à partir de là, il y a un échange et tu montres le film une dizaine de fois ou une douzaine de fois. Moi, je l'ai vu peut-être 40 fois, donc il y a quand même une espèce d'effet de saturation, mais il faut que tu gardes une espèce de relative confiance sur un temps long, puisque un montage, c'est plus de 3 ou 4 mois, puis t'as le montage son derrière, enfin... Il y a plein de réécritures successives, donc il faut être modeste et t'apercevoir que certaines versions sont meilleures que d'autres, donc tu reviens parfois à des sensations du début, mais surtout tu gardes à l'esprit que le film, pour moi c'était un film d'une salle de cinéma, donc on a constamment travaillé pour que le rythme soit le plus tendu possible. Enfin, souvent on parlait d'une flèche, enfin, voilà, je voulais faire ce film comme une flèche. On est tendu comme une arbalète, la flèche part et il fallait la suivre. Donc tout le travail pour moi, c'était de se dire qu'il n'y a que dans une salle de cinéma qu'on peut voir ce film. Je dirais il n'y a que. En tout cas, c'est le meilleur endroit pour pouvoir le voir, pour pouvoir le ressentir. Et puis parce que moi, je crois à l'aspect politique. Alors, pas du cinéma, parce que je n'ai pas envie de dire, Acide, c'est un film politique. La salle de cinéma est un lieu politique et donner envie à des spectateurs d'aller dans une salle de cinéma, pour moi, ça, c'est politique. Après que le film soit récupéré, qu'il soit objet de discussion, ça, c'est génial. Mais voilà, je croyais vraiment au désir de donner envie à tous les spectateurs, cinéphiles et pas que, qui aiment l'auteur ou le film à essai et pas que, les blockbusters et pas que. Enfin, voilà, j'avais très envie d'offrir une envie particulière.
Selon l'INRS, les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées.
On a pas marre de ces merdes, hein.
Je t'en fous la planète, c'est tout.
La fin du monde tous les deux jours.
De toute manière, ça me concerne plus que toi.
Je crois que c'était pas grave.
Attends, on va pas la ramener à la maison à chaque fois qu'il pleut.
L'acide sulfurique est corrosif pour la peau.
C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Élise ?
Les yeux, les voies respiratoires et digestives.
20 départements en vigilance rouge à la canicule, du jamais vu.
Attends. Vas-y, vas-y !
Accroche-toi !
42 degrés attendus dans les rues de la capitale.
Salvador ! Viens là ! Oh ! Oh ! Attention ! Vous êtes où là ?
On allait où vous pouvez, putain !
Dès que vous pouvez, vous allez vers l'est. Allez, dépêche-toi, faut y aller.
Mais si ça pète aussi à l'est ? C'est quoi ? Où est-ce qu'on va ? On va où ?
Faut qu'on trouve une maison.
Il n'y aura pas d'histoire.
Il n'y aura pas d'histoire.
Je connaissais pas, enfin, je le connaissais pas personnellement, donc je voyais le personnage public qu'il pouvait être, les causes et les combats qu'il pouvait mener. Moi, j'ai surtout certains films qui m'ont marqué. Enfin, tu parles de Nom de la Terre, d'Edouard Bergeon, je le trouve voilà, magnifique. Moi, il y avait surtout La prochaine fois, je viserai le cœur, de Cédric Auger, dans lequel je trouve qu'il est, il est incroyable. Il y a Rock'n'Roll aussi, son film qui est particulièrement bizarre, enfin, qui est très noir. Spike Jonze l'aurait fait, je pense qu'il l'aurait fait pareil. Donc, il y avait un truc chez lui qui était noir, qui était sincère. Et puis, il y a une scène dans Nom de la Terre. Il est face à son père, Rufus. Il joue un silence. Il ne sait pas comment lui dire ce qu'il a sur le cœur. Et dans ce silence, en fait, moi, je me suis rappelé d'un autre acteur américain que j'adore, qui s'appelle Christopher Walken, qui répondait un jour à un journaliste qui lui demandait « Mais pourquoi vous êtes si bon ?» Et Christopher Walken disait « Bah, quand on me demande de rien faire, je fais rien. » Et je trouvais que dans le regard et dans le silence de Guillaume, il y avait cette capacité à ne rien dire et à tout montrer. Et moi, j'avais à cœur de travailler avec un acteur qui serait aussi, comment dirais-je, aussi modeste que son silence et aussi bavard que sa noirceur. Enfin, c'est un mec des contrastes, Guillaume. Il peut être très gentil et en une seconde, il peut avoir un visage très, très difficile, très dur. Et je voulais un personnage qui soit difficile à suivre. Et ça, ça m'intéressait. Et puis, je l'ai rencontré et je lui ai présenté un scénario, je dirais pas un peu timide, mais qui était là aussi pour lui plaire quelque part. Donc, je n'avais pas monté tous les curseurs de noirceur de son personnage. Et très vite, il m'a dit, mais juste si on doit être honnête, si mon personnage doit faire ça, ça, ça et ça, il doit aller au bout de ça, ça, ça et ça, il doit vivre ça, 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 ça et ça. Et en fait, il ouvrait, je dirais, les champs du possible sur le film que je voulais faire. Et ça, ça venait de lui. Et à partir de là, moi, j'ai eu un partenaire avec moi qui était investi parce qu'effectivement, hein, il est comme nous, il essaye de faire au mieux, le mieux qu'il peut, et en même temps chargé d'une envie d'aller chercher un personnage compliqué, parce que son travail, c'était aussi de racheter son personnage, ou de lui offrir une humanité qui était difficile à saisir. Et je crois que dans mon cinéma, c'est ce que j'aime le plus, c'est-à-dire des personnages difficiles à saisir, mais qui sont profondément humains au fond d'eux, et j'espère que ma caméra révèle cette humanité.
On parlait de Guillaume Canet, on peut peut-être parler du coup des comédiennes de ton film, comme mm-hmm. Laetitia Deutsch et Patience Modène
Mutschenbach. Mm-hmm.
Comment elles sont arrivées aussi sur le projet ? Parce que cette jeune comédienne, elle est épatante, elle est pareil, très investie dans son rôle, pas évident en plus comme rôle. Donc comment, voilà, tu as travaillé aussi avec elle ?
Alors Laetitia, c'est la première personne auquel j'ai pensé. Moi, depuis jeune femme, enfin même depuis ses courts-métrages avec Justine Trier, on parlait de vilaine fille, mauvais garçon, il n'y a pas très longtemps, moi je voulais bosser avec elle. Donc c'était pour moi évident que cette jeune mère devait être cette jeune femme que j'avais rencontrée via le film de Léonore Serrail. Donc on s'est rencontrés très vite et elle était hyper partante. Elle aussi est très investie sur ces questions environnementale, hein, par rapport à ses spectacles. Donc elle a été très sensible. Et puis surtout, ça l'amusait de jouer ce qu'elle appelle un film Tom Cruise, c'est-à-dire un film avec des cascades. C'était une autre technique. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de confronter deux techniques de jeu différents. Laetitia, c'est une espèce de liberté permanente et d'envie d'improviser des nouvelles choses. Et Guillaume, c'est quelque chose de beaucoup plus préparé, de beaucoup plus réfléchi en amont. Enfin, c'est vraiment deux logiques de travail complètement opposées. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était d'associer un couple, je dirais, difficilement associable, puisque dans leur parcours et dans leur filmographie, ils ne se sont pas encore rencontrés. Donc, je suis très heureux de les faire se rencontrer comme ça. Patience, c'est encore particulier. Alors moi, j'ai bossé avec une directrice de casting formidable qui m'a permis de rencontrer des jeunes comédiennes. J'ai rencontré Patience qui avait déjà joué pour Erwan Leduc dans Perdrix. Donc je connaissais un début de filmographie, mais qui était plus porté vers la comédie. Et tout le travail, quand j'ai rencontré Patience, qui était formidable dès les premiers essais, c'était de la préparer à des états. Et moi, je lui ai dit, je veux pas que tu subisses 40 jours de tournage où tu vas devoir littéralement sortir des tripes, des cris, des hurlements, enfin de l'horreur. Enfin, ça va être dur et je ne veux pas te faire subir quoi que ce soit. Et avec Sandra Choquet, qui est une actrice formidable et qui l'a emmenée à réfléchir sur ses états, on l'a préparée à vivre des crises qui étaient extrêmement compliquées. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a une crise de panique dans le film. Sur le plateau, j'y ai cru et j'étais à deux doigts de couper cette scène. Après, on est tous un peu pervers, donc on se dit que ça peut peut-être être utile au montage. Donc, bon, je coupe. Promis, je coupe dans 5 secondes. Donc, j'ai coupé 8 secondes plus tard. Voilà. Et je suis allé la voir. Et en fait, elle s'est mise à rigoler. Et je l'ai vue rigoler avec Sandra. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et leur grand pari, ça avait été nous faire flipper sur une crise de panique qui était une crise de panique jouée et pas vécue. Et je crois qu'elle a... Elle a appris ce métier. Enfin, je suis heureux de l'avoir vue grandir et pas subir un plateau. Elle a pris énormément de plaisir, malgré la difficulté de ce travail, à s'investir. Elle a passé son bac français en parallèle. Enfin, c'est quelqu'un de brillant et c'est une adulte avant l'heure.